Vous écoutez On lit pour vous.
Alzheimer, la réalité virtuelle, dernière bouée pour les proches aidants. Un texte de Sivim El-Tayeb El-Rafei, paru le 13 août 2025 dans La Conversation. Dans l'ombre des soins, des milliers de personnes proches aidantes, PPA, vivent fatigue, isolement et détresse, souvent ignorées par le système de santé. Pourtant, une solution prometteuse émerge, une formation humaine et novatrice rendue possible grâce à la réalité virtuelle. Derrière chaque statistique, il y a des histoires poignantes. Un octogénaire seul avec sa conjointe atteinte d'Alzheimer, une jeune mère aidant à la fois son mari malade et son enfant handicapé, ou ce vieil homme de 81 ans qui a mis fin à la souffrance de sa conjointe par désespoir. En 2050, près de 211 600 personnes au Québec endosseraient ce rôle, prodiguant plus de 5 millions d'heures de soins par semaine. En 2021, le Québec adoptait une politique nationale à la suite de la loi 56, ou LPPA, qui reconnaît les personnes proches aidantes comme des acteurs essentiels du soin. Pourtant, sur le terrain, l'offre de formation reste limitée. Horaires rigides, contenu trop théorique, peu adapté aux réalités rurales ou multiculturelles. Résultat, ces partenaires de soins peinent à endosser la responsabilité de prestation de soins. Elles ont souvent besoin d'informations et de formations pour comprendre la maladie d'Alzheimer. Candidate au doctorat en technologie éducative à l'Université Laval, j'ai cumulé plus de 20 ans d'expérience en enseignement et en conseil pédagogique au Liban et au Québec. J'ai notamment accompagné des enseignants dans l'intégration des technologies numériques et la conception de formations présentielles et distancielles. La réalité virtuelle à la rescousse. Et si on pouvait apprendre à être proche aidant autrement? C'est déjà le cas dans plusieurs pays. En France, la Maison des aidants en Normandie et l'entreprise Social Dream utilisent des casques de réalité virtuelle, RV, pour simuler des situations du quotidien, refus de soins, agitation, confusion. Aux États-Unis, Embodied Labs offre des formations en RV aux PPA et au personnel de la santé pour mieux comprendre la maladie d'Alzheimer. D'ailleurs, le Department of Veterans Affairs rapporte une augmentation de 34 % de la confiance des aidants après des formations en RV. En Australie, le programme DESC est conçu pour former les travailleurs sociaux à gérer les comportements des personnes vivant avec la maladie d'Alzheimer. Au Canada, VRX at Home permet à des aidants d'utiliser l'ARV à domicile pour soulager leurs proches atteints d'Alzheimer. Pourquoi miser sur la réalité virtuelle? Utilisée de plus en plus en santé mentale, la réalité virtuelle fait ses preuves dans les traitements psychothérapeutiques des personnes âgées en institution qui souffrent de problèmes psychiques liés à la perte de mémoire et à la douleur somatique. Mais son potentiel ne s'arrête pas là. Grâce à l'automatisation des thérapies immersives, ce service deviendrait plus accessible et abordable et réduirait la demande de thérapeutes qualifiés. À la croisée de l'immersion, de l'interaction et de l'imagination, la réalité virtuelle s'impose aujourd'hui comme un outil pédagogique polyvalent. Qualifiée d'accélérateur ou d'amplificateur de formation, elle est capable de rendre les apprentissages plus concrets et engageants. Prenons par exemple une femme de 50 ans qui travaille à temps plein et s'occupe de sa mère atteinte d'Alzheimer. Elle a peu de temps pour suivre des formations en personne. Grâce à un programme de formation ARV, elle peut, depuis chez elle, vivre des scènes réalistes, comme une crise d'agitation en pleine nuit, et apprendre comment réagir avec calme et efficacité. En quelques sessions, elle se sent mieux outillée, moins seule et surtout comprise, plus qu'un outil technologique. La force de la réalité virtuelle, c'est son pouvoir d'immersion. Elle ne se contente pas de montrer, elle fait ressentir. L'aidant ne regarde pas passivement une vidéo, il devient acteur. Il voit le monde à travers les yeux d'une personne malade, ressent ses frustrations, ses angoisses. Cette immersion change la perspective et souvent les comportements. Des études montrent que la RV peut aussi réduire l'isolement des aidants et améliorer leur bien-être psychologique. C'est une façon concrète d'allier formation, soutien émotionnel et accessibilité. La RV peut aussi être une valeur ajoutée aux services classiques de la télésanté et un complément aux formations traditionnelles. Un virage possible pour le Québec. Le Québec dispose déjà d'expertises locales comme le programme MEMO, conçu en collaboration avec le Conseil national de recherche du Canada, CNRC, qui utilise déjà la RV pour stimuler les capacités cognitives des personnes vivant avec des troubles neurocognitifs. Il est temps de faire un pas de plus en s'adressant à celles et ceux qui les soutiennent chaque jour. Imaginez, une femme en région éloignée pourrait suivre une formation de qualité sans devoir se déplacer. Un homme peu à l'aise avec les formations en ligne classiques pourrait, avec un casque, expérimenter une situation et apprendre sur le terrain de façon interactive et engageante. Pour que cela devienne réalité, il faut investir dans des projets pilotes, co-construits en collaboration avec les milieux communautaires, les universités, les PME innovantes et, surtout, avec les personnes concernées, les PPA elles-mêmes. Il faut créer des formations adaptées et flexibles, en français et ancrées dans les réalités culturelles du Québec. En janvier dernier, le gouvernement du Québec a lancé une nouvelle politique sur la maladie d'Alzheimer qui évoque déjà l'importance de l'innovation. Oser le changement. Les initiatives internationales démontrent qu'il est possible et souhaitable d'utiliser la réalité virtuelle pour soutenir les personnes proches aidantes. Sans ignorer les aspects éthiques de leur usage, ces outils sont des solutions concrètes, accessibles, humaines. Il est temps que le Québec franchisse ce cap. Soutenir les PPA, c'est défendre des valeurs fondamentales : équité, dignité, inclusion. À l'heure où l'on parle d'innovation et de transformation sociale, il faut mettre la technologie au service de l'humain. La RV peut être une lumière d'espoir pour celles et ceux qui, comme le disait l'infirmière et autrice suisse Rosette Poletti, apprennent à danser sous la pluie plutôt que d'attendre la fin de l'orage. Le Québec ne manque ni de compétences ni de ressources. Ce qu'il nous faut maintenant, c'est une véritable volonté politique, un brin d'audace et surtout beaucoup d'écoute. C'était Alzheimer, la réalité virtuelle, dernière bouée pour les proches aidants. Un texte de Sivim El-Tayeb El-Rafei, paru le 13 août 2025 dans La Conversation.
Manger moins, une fontaine de jouvence. Un texte paru le 6 mars 2023 dans le magazine Québec Science. Une étude récente démontre que manger moins aurait des effets bénéfiques sur la santé et pourrait même ralentir le vieillissement. Solution miracle? Rien de certain. Si tu rêves de vivre plus de 100 ans, tu devrais peut-être envisager de déménager au Japon. Les habitants de l'île japonaise d'Okinawa, qui abrite un nombre impressionnant de centenaires, se nourrissent principalement de poissons, d'algues et de légumes. En d'autres termes, des aliments faibles en calories. Plus précisément, on estime que ces insulaires ingèrent environ 40 % moins de calories que la moyenne nord-américaine, qui oscille entre 2200 et 2800 calories par jour. On entend parfois que leur espérance de vie est de 5 ans plus longue que la nôtre. Mais ce n'est pas prouvé scientifiquement. L'hypothèse qu'un apport réduit en calories prolonge l'espérance de vie, aussi connue sous le nom de restriction calorique, ne date pas d'hier. Dans les années 1930, un chercheur a mené une étude sur des rats. En réduisant leur apport calorique de 25 %, leur espérance de vie se voyait doublée. Même constat chez des souris 50 ans plus tard. Et des tests concluants ont également été réalisés sur des insectes, des chiens et même des primates. Mais attention, selon ce principe, même si l'on coupe les calories, il faut tout de même ingérer tous les nutriments nécessaires au bon fonctionnement du métabolisme. Faire des tests sur les animaux, c'est bien. Mais l'humain dans tout ça? Des chercheuses et chercheurs ont récemment publié une rare étude qui démontre qu'une réduction de 25 % de l'apport calorique chez les humains pourrait ralentir le processus de vieillissement. Cet apport correspond à environ 1650 calories par jour pour un homme et 1450 calories par jour pour une femme. On parle ici de l'équivalent d'un trio Big Mac avec un chausson aux pommes et une boisson gazeuse. Avec ce régime, les scientifiques ont noté une diminution de la pression artérielle, une réduction du mauvais et une augmentation du bon cholestérol, ainsi qu'un meilleur contrôle du glucose. À première vue, ces résultats pourraient laisser présager des effets bénéfiques d'une restriction calorique sur la santé et le métabolisme. Mais il faut savoir que les participants à l'étude n'ont été soumis à ce régime que pendant 2 ans. Les effets à long terme d'une telle alimentation ne sont, conséquemment, pas connus à ce jour. Cette étude ne permet donc pas de faire un lien direct entre une restriction calorique et un prolongement de la longévité. Des études plus approfondies seraient grandement nécessaires. Mais ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pourquoi? Parce qu'une étude sur les effets à long terme de ce type de régime, soit à l'échelle d'une vie, serait fastidieuse et dangereuse. La restriction calorique pose des risques importants de carence alimentaire, sans parler de la difficulté de recruter assez de participants prêts à ne pas manger à leur faim pendant plusieurs décennies. Tu serais volontaire? Que retenir que si tu désires prolonger ton espérance de vie, assure-toi d'avoir une alimentation saine et équilibrée et de rester actif. Ça, c'est prouvé scientifiquement. C'était « Manger moins, une fontaine de jouvence », un texte paru le 6 mars 2023 dans le magazine Québec Science.
Le français pour l'avenir. Faire vivre la langue de Molière en dehors des salles de classe. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 10 juin 2026 dans La Source. Pendant que l'année scolaire tire à sa fin, l'organisme pancanadien Le français pour l'avenir continue à encourager les jeunes francophones et francophiles de la Colombie-Britannique à cultiver leur confiance linguistique en pratiquant le français au-delà du cadre scolaire. Dans un contexte où les occasions d'utiliser le français sont limitées, l'organisme national Le français pour l'avenir fait la promotion du bilinguisme canadien et incite les élèves de la 7e à la 12e année, âgés de 12 à 18 ans, à vivre en français. Sa mission principale? Fournir aux enseignants des ressources, des programmes et des espaces en vue d'encourager l'usage du français et renforcer la confiance linguistique des élèves. Selima Ben Houda, coordonnatrice du marketing et des communications pour l'organisme, indique qu'une stratégie de communication ciblée est mise en place dans le but de rejoindre le plus grand nombre possible de jeunes. Nos campagnes prennent différentes formes, des courriels par l'entremise de notre infolettre et d'envois ciblés, ainsi que des publications sur nos réseaux sociaux. Nous veillons également à maintenir un lien avec les enseignants et les participants qui connaissent déjà nos programmes. Nous proposons notamment des trousses pédagogiques destinées aux enseignants, le concours national de rédaction qui donne droit à des bourses pouvant atteindre 28 000 $, la plateforme interactive FR+, pour les jeunes de 14-18 ans, ainsi que le Forum national des jeunes ambassadeurs et des forums locaux où les élèves peuvent, par exemple, participer à des ateliers de théâtre, de danse, de science ou de robotique entièrement en français, fait-elle savoir, tout en ajoutant que les forums locaux de la province se tiendront à Vancouver et Victoria en 2026-2027. Favoriser la prise de parole. Selon Selima Ben Houda, le français pour l'avenir pousse les jeunes à parler un français imparfait. De plus, nous observons que plusieurs jeunes alternent entre l'anglais et le français, ce que nous valorisons également. L'important, c'est d'utiliser la langue française. Le français pour l'avenir invite les jeunes Canadiens âgés de 12 à 22 ans à se transformer en jeunes reporters franco en rédigeant des articles pour son blog. L'organisme suggère également aux élèves de suivre la plateforme Télé-Québec en classe, qui propose des contenus interactifs et éducatifs. De plus, il dirige les familles vers le site Allo Prof Parents, qui met à leur disposition des outils et des conseils pratiques pour accompagner à la maison les jeunes dans leur apprentissage du français. Développer sa confiance linguistique. Geneviève Poitras, présidente du Conseil jeunesse de la Colombie-Britannique, explique que plusieurs jeunes ressentent une pression liée à l'usage d'un français normatif. Cela peut les décourager à s'exprimer en français en raison de la peur du jugement, souvent présent à l'école ou au sein de la famille francophone, et amener certains jeunes à privilégier l'anglais, jugé plus simple ou sécurisant dans les interactions quotidiennes. Elle évoque des incidents durant son parcours scolaire où des remarques sur son accent ou des corrections à répétition ont eu des effets néfastes. Ça me rendait très anxieuse par rapport à mon français, et ça renforçait l'idée d'une norme linguistique difficile à atteindre, ce qui freinait la prise de parole. La jeune femme souligne également les limites de la pratique du français en dehors du milieu scolaire. Les élèves doivent souvent chercher eux-mêmes des endroits ou des occasions pour parler en français, ce qui fait que la langue est moins présente dans leur vie sociale. Dans certains cas, le français est surtout associé à l'école ou au travail. Cependant, selon Geneviève Poitras, les espaces communautaires permettent de valoriser la pratique du français. Des organismes comme le Conseil jeunesse offre des occasions différentes de vivre le français. Grâce à ces événements, les jeunes peuvent tisser des liens plus forts avec leur francophonie. Ce contact avec une communauté partageant des expériences similaires a augmenté ma confiance et mon sentiment d'apprentissage. C'était « Le français pour l'avenir ». Faire vivre la langue de Molière en dehors des salles de classe. Un texte de Marie-Paul Berthiaume, paru le 10 juin 2026 dans La Source.
Il faut réduire les inégalités pour sauver le climat. Un texte d'Éric Desgroseilliers paru le 4 juin 2026 dans Le Devoir. Il est possible de mener de front la lutte contre le réchauffement climatique en même temps que celle contre les inégalités, disent des experts. En fait, c'est même la seule façon d'avoir des chances de réussir. On peut encore limiter le réchauffement climatique à 1,8 degré Celsius d'ici 2100, plutôt que de se diriger vers une hausse catastrophique de 4,5 degrés Celsius, comme actuellement, explique une cinquantaine d'experts internationaux dans un ambitieux plan pour l'égalité et la prospérité dans les limites planétaires. Pour ce faire, il faudrait bien sûr accélérer la transition vers des énergies vertes, mais pas seulement. Il faudrait aussi réduire les écarts mondiaux de richesse, s'assurer que l'essentiel de la population humaine continue d'améliorer son bien-être matériel et créer un fonds mondial d'investissement pour la transition verte et le développement qui serait financé par de nouvelles taxes sur les milliardaires. Basé sur le travail et les données des quelques 200 chercheurs associés au Laboratoire sur les inégalités mondiales de l'École d'économie de Paris, le plan de 135 pages, élaboré par plus d'une quarantaine d'experts, se fait fort de détailler et de chiffrer chacune de ces propositions. Le célèbre expert sur les inégalités, l'économiste français Thomas Piketty, est l'un d'eux. Il est plus que temps, selon lui, d'en finir avec l'illusion d'une écologie sans classe sociale, a-t-il déclaré récemment à un petit groupe de journalistes lors d'une vidéoconférence. Cette idée qu'on puisse trouver ensemble une nouvelle forme de croissance économique verte qui permettrait d'agrandir la tarte à se partager et sans qu'on ait à prêter attention aux inégalités, est une dangereuse illusion, a-t-il déclaré en réponse à une question du Devoir. Il n'y a aucune chance que les électeurs aux revenus moyens et faibles ou les pays du Sud acceptent, par exemple, des taxes carbone ou un niveau de prospérité moindre que les autres. La sobriété plutôt que la décroissance. Plutôt que de proposer une simple décroissance économique qui, en plus d'être difficile à vendre à la population, serait plus coûteuse et moins efficace, on y met en avant le concept de sobriété. Cela passerait par la poursuite d'une tendance en cours depuis presque deux siècles à la diminution du temps de travail et qui amènerait cette fois une réduction de moitié du nombre d'heures travaillées d'une moyenne mondiale de 2100 heures par année à 1000 heures, soit l'équivalent de 25 heures par semaine avec 12 semaines de congés payés. Il faudrait aussi que l'économie se détourne de plus en plus de la consommation matérielle au profit d'autres secteurs d'activité. On pense notamment à réduire les inégalités en matière d'accès à l'éducation et à la santé en y doublant, par exemple, les dépenses par habitant dans les pays riches et en les multipliant par 40 en éducation et même par 130 en santé en Afrique subsaharienne afin de ramener tout le monde au même niveau. La part des deux secteurs dans le total des heures travaillées passerait aussi de 11 % à 43 %. En adaptant un peu notre diète, on pourrait également renverser au moins une partie de la déforestation qui a été faite à la seule fin d'avoir plus de pâturage pour le bétail. Ces efforts pourraient être financés par des fonds d'investissement créés à partir d'une taxe mondiale sur la fortune et un impôt sur le revenu du 1 % des plus riches. Comme ces milliardaires se retrouvent principalement dans les pays riches et que les besoins les plus importants se trouvent dans les pays de développement, ces fonds contribueraient à la fois à réduire jusqu'à éliminer presque complètement la richesse extrême et à offrir une forme de réparation aux peuples victimes de la colonisation au fil des siècles. Ils aideraient aussi le Sud dans sa lutte contre un réchauffement climatique dont on est essentiellement responsable au Nord. Un tel plan permettrait à terme d'assurer dans tous les pays un revenu par habitant équivalent à 5 000 euros par mois, 8 000 $ canadiens par mois, à l'horizon 2100, estiment nos experts qui devraient présenter leur projet jeudi à Paris dans le cadre d'une conférence internationale sur les inégalités mondiales. Un tel résultat permettrait à près de 90 % de la population mondiale d'au moins doubler ses revenus tout en travaillant deux fois moins d'heures. Équivalent globalement à un arrêt de l'enrichissement des pays développés, l'exercice infligerait surtout un appauvrissement aux plus riches Européens, 6 % de la population, et Nord-Américains, 14 %, les autres bénéficiant malgré tout d'une augmentation de leur pouvoir d'achat. Le quart de la population nord-américaine ayant droit lui aussi à voir son revenu au moins doublé, 45 % à le voir augmenter de 20 % à 100 % et les 15 % restants à une hausse de 0 % à 20 %. Et cela sans parler du fait que tout le monde y gagnera la chance de travailler deux fois moins d'heures, d'éviter une catastrophe climatique planétaire et de réduire l'effet déstabilisant des inégalités extrêmes, rappellent les experts. Une autre vision de l'avenir. Se disant ouverts à la discussion et à la critique, ces derniers entendent poursuivre leur travail en parallèle d'autres forums, dont celui du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. On espère aussi offrir la possibilité de venir contester le monopole de la représentation du futur présenté par un certain discours techno-autoritaire comme celui du multimilliardaire Elon Musk, dit un autre des experts qui a aidé au projet, Lucas Chancel. Si les seules représentations du futur se résument à un monde avec de nombreuses colonies d'IA sur Mars, un réchauffement climatique de 4 degrés Celsius et d'immenses inégalités, il est très difficile d'avoir des débats publics constructifs sur ce sujet, dit l'économiste français. Nous espérons donc contribuer à proposer des représentations de l'avenir qui renouent avec les progrès sociaux considérables observés dans certains pays au XXe siècle, avec des avancées économiques et démocratiques majeures. C'était « Il faut réduire les inégalités pour sauver le climat ». Un texte d'Éric Desgroseilliers paru le 4 juin 2026 dans Le Devoir.